Europe 1, en balade avec Hélène Darroze. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est Hélène Darroze qui nous emmène en balade aujourd'hui. Elle fait partie des rares femmes multi-étoilées par le guide Michelin. Deux étoiles, Oconaut à Londres, un au Marsan, rue d'Assas à Paris. Elle a été élue en 2015 meilleure femme chef du monde. Les Français la connaissent bien, elle fait partie du jury de Top Chef depuis 6 saisons. Et Disney s'est inspiré d'elle pour le personnage de Colette dans Ratatouille. Hélène Darroze nous attend dans son troisième restaurant, Joya, rue des Jeuneurs.
Frédéric Taddeï, en balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, ma foi.
On est chez Joya ou à Joya ?
À Joya.
Ça veut dire voilà. Joie, hein, en occitan.
Ça veut dire joie, en béarnais, voilà.
On est dans le quartier du Sentier, qui était le quartier de la confection, des grossistes, des ateliers textiles.
Je pense que c'était un ancien atelier de confection, parce que quand on voit les ouvertures, surtout à l'étage,
ouais,
qui sont des grandes portes-fenêtres, baies vitrées, je pense que c'était pour faire rentrer la lumière pour ceux qui confectionnaient, je pense.
C'est pas plus mal aujourd'hui pour ceux qui déjeunent, qui petits
Exactement.
Déjeunent. On est dans la rue des Jeuneurs, comme son nom ne l'indique pas, c'est la rue des nouveaux restaurants, il y en a plein. Hein. Il y a Cézanne. Il y a Salatim, il y a Pezzou de la Basse-Cour, il y a Bambou, il y a nous, juste à côté, et puis il y a vous maintenant.
Mais voilà, maintenant il y a nous.
Vous ouvrez pour le petit déjeuner, hein ?
Ouais, de temps en temps. Pas tous les jours, mais de temps en temps, on ouvre pour le petit déjeuner. Mais l'idée, c'est d'ouvrir en effet tous les jours du petit déjeuner jusqu'à
point d'heure.
Point d'heure. Jusqu'à 1h du matin, au moins autour du bar et de cocktails. Ouais.
Le brunch est devenu célèbre ici le dimanche.
Ouais, le brunch est très couru parce qu'il est très copieux.
Du boudin, il paraît que c'est vous qui mangez du boudin au petit déjeuner depuis votre enfance.
Ah, comment vous savez ça? C'est vrai que j'adore le boudin et c'est vrai qu'une fois je me suis fait attraper en mangeant au petit déjeuner du boudin par ma maman et qu'elle l'a chanté sur tous les toits et c'est devenu légendaire.
Oui, c'est ça. Mais je le sais parce que j'ai lu le livre que vous venez de publier au
Cherche
Midi. Ah oui,
d'accord.
Il y a vos 60 recettes originales pour Joya,
ouais,
justement. Et il y a notamment du boudin.
Boudin fait maison.
Il y a les œufs pipérades. Qui sont délicieux aussi, je les ai mangés ici, donc
ah ouais,
je le sais.
D'accord. Bah, en fait, c'est tous les plats de mes grands-mères, de mon enfance, avec mon petit twist, hein, mais voilà, c'est tout.
Mais je me demandais comment vous êtes habitué au restaurant gastronomique, vous en avez deux. Quand tout à coup on ouvre un restaurant qui n'est pas un restaurant gastronomique, au moment d'inventer les recettes, quel problème on se pose? On se dit, il ne faut pas que ça coûte trop cher, c'est
non,
d'abord à ça qu'on pense.
Non, sincèrement, c'est pas du tout à ça que j'ai pensé. Même si en effet ici, je voulais que ce soit une offre assez abordable. Non, moi j'ai surtout pensé, à faire une cuisine de partage, une cuisine de générosité, une cuisine accessible à tous. C'est à ça que j'ai pensé, quoi.
Et donc vous avez pensé à vos grands-mères.
Et j'ai pensé, oui, mes grands-mères, elles m'ont appris à cuisiner dans la générosité, dans le partage autour de la table, autour d'une cocotte, et c'est à ça que j'ai pensé, ouais.
Et il y a parmi les recettes de Joya, il y a les moules de bouchot de Tonton Claude.
Alors ça,
c'était qui Tonton Claude?
Alors mon Tonton Claude, c'est toujours, hein, parce qu'il existe toujours, mon oncle. C'est moi, je suis la quatrième génération d'une famille de cuisiniers, et mon oncle était la génération précédente avec mon papa, et dans son restaurant à Langon, qui est tenu maintenant par mon cousin.
Ah oui, c'est tout le monde.
Ah oui, c'est tout le monde, voilà, c'est vraiment une histoire de famille. Il faisait ces moules assez extraordinaires, qui sont servis froides, avec une sauce dessus, une sauce un peu cocktail, avec plein d'herbes, très très fraîches. Voilà, c'est un plat d'été. Et voilà, et donc l'été, on trouve les moules de Tonton Claude sur le menu de Joya.
Et la soupe à l'ail et à l'œuf, vous dites que chez vous, dans les Landes, on apporte ce plat-là aux jeunes mariés pendant leur nuit de noces.
Oui, c'est ce qu'on appelle le tourin à l'ail.
On leur apporte
Exactement,
au lit pendant leur nuit de noces.
On va les embêter, on va les réveiller et on leur amène cette soupe-là. Voilà.
Et ça se fait encore, ça?
Ah oui, c'est une tradition. Moi, je l'ai fait à mes amis. C'est vraiment, voilà, ça s'appelle le tourin à l'ail.
La nuit de noces, c'est plus ce que c'était non plus. Ça a plus l'importance que ça... Ça a revêtu...
C'est un fait. Ça dépend pour qui, mais bon, voilà.
En général, on y attache moins d'importance.
En général.
J'ai vu que là, en entrant, il y a une grande affiche, une publicité pour le foie gras. Le foie gras, c'est les Landes, hein,
bien entendu. Je suis née dans le pays du canard gras.
Il y a d'ailleurs plein de recettes au foie gras dans votre livre.
La macaronade, la terrine.
Vous pensez qu'on va l'interdire un jour, le foie gras ?
Écoutez, je ne pense pas. Je l'espère pas. Après, voilà, il y a foie gras et foie gras. Hein, quand le canard est élevé dans les règles de l'art, quand on est respectueux d'un certain élevage, d'un certain gavage, c'est sûr qu'après, c'est comme toutes les cultures ou productions intensives. Il faut savoir y mettre des limites, quoi.
Vous cuisinez beaucoup d'animaux. On sent que c'est un des trucs qui fait réfléchir aujourd'hui.
Oui,
réfléchissez, j'imagine.
Sincèrement, je réfléchis à comment être responsable par rapport à ça. Je réfléchis à toujours bien choisir mes producteurs, mes éleveurs. Ça, c'est évident. Je réfléchis à respecter une pêche raisonnée. Ça, c'est évident. Maintenant, réfléchir à bannir la protéine animale de mes menus, non, j'y réfléchis pas du tout, c'est certain.
Non, la plupart des gens, d'ailleurs, n'y réfléchissent pas non
exactement,
plus.
Exactement.
Mais on sent bien que ça a créé chez les chefs, les grands cuisiniers, une responsabilité supplémentaire que ne devait pas avoir votre père, votre oncle, votre grand-père ou votre arrière-grand-père.
Oui, parce que tout était beaucoup plus raisonnable peut-être aussi à leur époque, quoi, parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je me souviens, en tout cas, quand j'étais petite fille, les œufs, ils arrivaient directement de la ferme, les poules, elles étaient dans le poulailler de la ferme familiale, l'agneau de lait, il arrivait du boucher local, les saumons de la Dour, ils étaient pêchés dans la rivière à côté, donc la responsabilité, elle était naturelle, on n'avait pas besoin de se poser la question, parce que voilà...
C'était à taille humaine.
Ouais, exactement, c'était à taille humaine, et c'était logique, quoi, c'était logique.
Eh bien, on va partir en balade avec vous, Hélène Darroze, on vous suit, c'est vous qui avez tout prévu, on marche derrière vous.
Ok, on y va.
Frédéric Taddeï, en balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
Nous voilà dans la rue des Jeuneurs, avec Hélène Darroze.
Alors la rue des Jeuneurs, ça n'a rien à voir avec les gens qui jeûnent, qui mangent.
Bon
non, autrefois c'était la rue des Jeuneufs, et c'était la rue où se passaient sous Napoléon tous les jeux de boules, de quilles, etc. Et de Jeuneurs, c'est parti à Jeuneurs, on ne sait pas pourquoi.
D'accord. Voilà. Eh oui. Je le disais, tous ces restaurants rue des Jeuneurs, c'était drôle, mais en fait, ça n'a rien à voir. Il y a Top Chef qui vient de reprendre, c'est votre 6e saison, ça a bien débuté, je crois, 3 millions de spectateurs pour votre retour au mois de février. C'est quand même bizarre, je trouve, cet engouement pour cette émission, alors qu'on ne goûte même pas les plats. Comment expliquez-vous que c'était spectateur ?
D'abord, j'explique parce que c'est...
C'est spectaculaire ?
D'abord, parce qu'on est une équipe fortement sympathique.
Oui, sans doute.
Parce que, voilà... Non. Parce que d'abord, les gens en France aiment bien manger, aiment bien faire la cuisine, ça c'est clair. Et que de toute façon, oui, de plus en plus on est concerné par la bonne cuisine, de plus en plus on est concerné par les bons produits. Et je pense que Top Chef envoie les bons messages à ce niveau-là. Donc ça interpelle. Et puis c'est tous ces programmes de télé-réalité.
Enfin, télé-crochet plus exactement, parce qu'on n'est pas non plus avec eux sous la douche quand même.
Ouais, heureusement, mais en fait, on est quand même dans la réalité d'une cuisine et d'un concours, hein, au-delà d'une cuisine, d'un concours. Et je pense que voilà, les gens aiment bien ça, les défis qui sont lancés. Puis les candidats sont toujours de plus en plus déjà qualitatifs, toujours bien sympathiques.
Et puis il y en a plusieurs anciens qui ont été étoilés par le Michelin, hein, notamment
exactement,
cette année.
Exactement.
Stéphanie Lequellec, 2 étoiles au Michelin. Elle a débuté dans Top Chef.
Exactement, elle a gagné Top Chef dans les toutes premières émissions. Moi, je n'étais pas encore membre du jury. Mais oui, il y a plein de jeunes candidats qui aujourd'hui ont des établissements reconnus par les guides, par le public aussi, et c'est super. Je pense que c'est une émission qui aujourd'hui fait la belle.
Ça dure 2 mois pour lesquels vous mangez plus que d'habitude, non, j'imagine?
Ah ouais.
Vous goûtez tout le temps?
On goûte tout le temps, et puis en plus, au-delà de ça, on fait de longues heures dans la journée, donc oui, c'est n'importe quoi pendant 2 mois.
C'est n'importe quoi.
Stéphane Rothenberg dit qu'il prend toujours 3-4 kilos à la fin d'une saison de Top Chef.
Pas vous?
Je pense que cette année, ça a été un peu le cas, ouais.
Frédéric Taddeï se balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
Vous y croyez, vous, à la démocratisation de la gastronomie, aux plats signés par les grands chefs dans les TGV, dans les avions, les surgelés qui font appel à vous notamment d'ailleurs. Bientôt, ce seront les cantines scolaires, j'ai l'impression.
Moi, j'ai déjà travaillé pour les cantines scolaires. C'était super intéressant, il y a très longtemps. C'était super intéressant et c'est un de mes regrets d'avoir arrêté. À un moment donné, ils n'ont plus voulu de moi. Et c'était...
Non. Vous étiez trop célèbre.
Je sais pas, j'en sais rien, mais c'est un de mes regrets parce que je pense que bien manger dans les cantines pour les enfants, c'est primordial. Vous savez qu'il y a des enfants, ils ont que ce repas-là par jour, hein, donc c'est important de bien les nourrir. Mais au-delà de ça, c'est important de bien les éduquer à une bonne alimentation, à de bons produits, au goût tout simplement. Donc j'aimais beaucoup travailler pour les cantines.
Mais vous pensez qu'on peut faire du très bon, alors que ce soit dans le TGV, dans les avions, en surgelé, vous pensez qu'on peut faire du très bon pour quelques euros?
Pour quelques euros de matière première, oui, ça je pense que oui, parce que des poissons comme le maquereau, comme tous ces poissons bleus qui restent super accessibles.
C'est vrai que c'est pas cher le maquereau, je suis toujours étonné que ce soit si peu cher.
Le rouget grondin qui est un poisson fabuleux. Si on allait un peu plus sur les marchés de village, les marchés ou de ville d'ailleurs, si on allait à la rencontre de... des vrais producteurs, si on allait un peu plus dans les fermes, etc. Je pense que oui, on pourrait faire très très bien à manger avec peu de deniers. Maintenant, c'est plutôt après quand on arrive à un stade trop industrialisé, c'est là que le bât blesse. Et c'est là que quand on fait en trop grosse quantité et que c'est trop industrialisé, c'est à ce moment-là que c'est plus au niveau de la qualité que c'est indiscutable.
Vous avez souffert du coronavirus, non pas que vous l'ayez contracté, mais comme beaucoup de restaurateurs, de salles de spectacle, il y a moins de gens en ce moment.
Alors, pour l'instant, je touche du bois. Je touche du bois. On n'est pas encore hyper concernés. On a une petite baisse, certes. Je pensais que ce serait pire. Donc, si ça reste comme ça... Ça va, mais je pense que là, ça va s'accentuer dans les jours qui viennent. Je pense à partir de maintenant que les choses difficiles vont commencer.
Et à Londres ?
À Londres, beaucoup plus. On est beaucoup plus touchés.
Oui ?
Beaucoup plus, ouais. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a ils ont des messages un peu moins de confiance, peut-être un peu moins rassurants, je ne sais pas. Mais en tout cas, après Londres aussi, à Paris, moi, je travaille avec une clientèle très parisienne, très française. Donc je trouve que les Français continuent pour l'instant à sortir et à être dans la confiance. Ce qui s'est arrêté, c'est le tourisme et la clientèle d'affaires venant de l'étranger.
Et Londres,
moi, celle-là, je ne suis pas touchée. Je l'ai pas, c'est pas l'essentiel de ma clientèle, donc je suis préservée.
À Paris, mais à Londres.
Par contre, à Paris, voilà. À Paris, à Londres, pardon, c'est terrible, quoi. Londres, c'est...
On se retrouve dans un instant... avec Hélène Darroze dans le centre de Paris. Nous marchons avec Hélène Darroze dans la rue Réaumur, avec ses magnifiques façades d'immeubles à vocation industrielle et commerciale datant des années 1890-1900. Vous aimez ce quartier ?
Oui. Moi, j'ai découvert vraiment le sentier et le deuxième... par hasard, hein, parce que vraiment c'était pas une destination dans laquelle j'avais prévu d'ouvrir un restaurant, et puis le hasard a bien fait les choses. Et c'est vrai que c'est un quartier où j'aimerais vivre. Voilà, il est un peu loin de mon restaurant gastronomique.
Lui, il est rue d'Assas, hein, ouais. Il a une étoile au Michelin, il s'appelle Le Marsan aujourd'hui. Ouais. Vous êtes né à Mont-de-Marsan et l'auberge familiale se trouvait à Villeneuve-de-Marsan, juste à côté. Oui. Vous nous l'avez dit, vous êtes la quatrième génération. Vous avez passé votre enfance dans les Landes. Faisiez le marché avec votre père ?
Avec mon grand-père. J'ai fait le marché avec mes grands-parents. Et c'était formidable parce que...
Qu'est-ce qu'on trouve sur les marchés landais qu'on ne trouve nulle part ailleurs ?
D'abord, c'était... Moi, quand j'étais enfant, en tout cas, c'était le marché du gras, ce qu'on appelait le marché du gras. C'était le marché où on venait, à Villeneuve-de-Marsan, dans mon village, c'était le marché où on venait acheter les canards gras, le foie gras. Alors pas toute l'année, hein, parce qu'il y avait une saison pour ça, c'était plus l'hiver en fait.
Ah oui, moi je préfère l'automne moi, dans cette région.
Ouais, automne-hiver. Ah bah, l'automne c'est la plus belle des saisons dans les Landes, c'est clair. Hein. Ça c'est les champignons, la chasse. Je suis pas chasseuse, mais c'est vrai qu'il y a toute une ambiance autour de la chasse qui est assez extraordinaire. Notamment autour de la table, parce que quand on fait la chasse à la palombe par exemple, ce qui est de plus intéressant presque, c'est le repas qu'on partage
ensuite
ou presque tout le long de la journée d'ailleurs, hein, mais bon. Et puis à Villeneuve-de-Marsan il y avait aussi le marché des veaux, les veaux de lait. On vendait il y avait une halle avec les veaux de lait. Voilà, c'était
Il paraît que c'est la meilleure viande. Vous êtes d'accord?
Le veau de lait?
Oui, j'entends. Ah bah
j'ai mangé ça midi. Donc voilà.
Europe 1, 11h30, en balade avec Hélène Darroze, Frédéric Tadéhi.
Alors, premier pas dans la cuisine, vous les avez fait à quel âge?
Oh ben, je pense que j'étais encore dans le berceau.
Vous commencez vraiment à préparer
Il paraît que j'ai cuisiné ma première tarte parce que j'ai commencé par faire des desserts. J'avais 6 ans à peu près, tarte aux pommes. Voilà.
Ah, et la tarte au citron?
La tarte au citron, c'était un peu plus tard parce qu'elle était un peu plus difficile à faire. Mais c'est vrai que ouais, je faisais une tarte au citron qui était assez... assez remarquable,
paraît-il. Il paraît que Pierre Perret fréquentait l'établissement et qu'il vous redemandait tout le temps de votre tarte au citron. Vous aviez 11 ans, quoi.
Alors, c'est pas qu'il fréquentait l'établissement, c'est que Pierre Perret est un des meilleurs amis de papa, enfin de la famille. Donc, il venait très souvent en vacances à la maison. Et en effet, je lui faisais ma tarte au citron parce qu'il l'adorait. Je sais qu'il en parle encore, donc voilà.
Pierre Perret qui chantait... Le torboyau, c'était pas du tout inspiré de chez nous.
Non, pas du tout. Pas du tout, non, mais...
Parce que le torboyau, c'est quand même un endroit très spécial.
Non, c'était pas... Mais Pierre Perret, qui est un très grand gourmand et un très grand cuisinier, attention, hein, c'est quelqu'un qui cuisine remarquablement bien, quoi.
Et bien, on écoute le torboyau.
Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croûte de chef maison. Un Bordeaux va piquer les hannetons. De temps en temps, il y a un vieux pull à sueur qui s'offre un vieux jambon au vieux beurre. Et puis une nana, une jolie drôlesse qui lui vante son magasin à fesses. Au torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il a de la graisse plein les tifs, des gros points noirs sur le pif. Quand Bruno fait le menu et le sert, t'as les premières douleurs au dessert. L'estomac à genoux qui demande pardon, les boyaux qui tricotent des napperons. Les rotules de grand-mère, c'est du beurre, à côté du beefsteak pomme vapeur. Si avant d'entrer, il te reste une molette, un conseil, tu la laisses au bestiaire. Au torboyau, le patron s'appelle Bruno, sa femme est morte il y a 3 mois d'un ulcère à l'estomac. Dans le quartier, même le mois le plus doux, tu ne risques pas d'entendre miaou. Des greffiers mignons, il n'y en a plus baiser, ils sont tous devenus des rines du chef. Je me souviendrai longtemps d'un gazier qui voulait à tout prix du gibier. Il chuta avant de sucer les os, les moustaches en croix sur le carreau. Au torboyau, le patron s'appelle Bruno. Il envoie des postillons, ça fait des yeux dans le bouillon. Sois prudent, prends bien garde au fromage, son camembert a eu le retour d'âge. Avant de l'approcher, je te jure que t'hésites, ou alors c'est que t'as de la sinusite. Comme Bruno a un gros panari, le médecin a prescrit le bain-marie. Mais subrepticement, en t'amenant l'assiette, il le glisse au chaud dans la blanquette. Au torboyau, le patron s'appelle Bruno. Rien qu'à humer le mironton, t'as la gueule pleine de boutons. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, tous les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croûte de chef maison. Un merci, pas piquer les hannetons. Cet endroit est tellement sympathique t'as déjà le tout Paris qui rapplique. Un petit peu déçu, pas être invité, ni filmé par les actualités. Oh, d'envoyo, le patron s'appelle Bruno. Allez vite le voir avant qu'il s'achète la tour d'argent.
C'était Autant Boyau, chanté par Pierre Perret. Revenons dans l'auberge familiale. Vous y avez travaillé avec votre père. Comment ça s'est passé? C'est toujours particulier à la fois de travailler avec son père, mais aussi quand on est parti à deux générations différentes.
Ouais, ça a été... c'était pas évident. C'était pas évident parce qu'en effet, il y avait une génération d'écart. Moi, j'arrivais de chez M. Ducasse, au Louis XV, qui avait 3 étoiles. Et,
c'était à Monaco, ça?
À Monaco. Et j'avais vu une cuisine assez formidable des années 90-2000. Et puis voilà, chez papa était un très bon cuisinier.
Lui aussi, il était étoilé au Michelin, comme votre grand-père.
Bien sûr. Mais ça n'empêche qu'on ne cuisinait pas du tout de la même façon, quoi. Donc c'était parfois un peu difficile. Et puis un jour, il l'a bien compris et il a dit, ben voilà, voilà les clés de la maison, voilà les clés de la cuisine, et vas-y toute seule. Et c'était vachement généreux, c'était juste...
Mais comment ça s'est passé avec la clientèle locale?
Ben, elle a bien réagi.
Ouais.
Ouais, super, elle a super bien réagi. Faisait
à l'époque un tagine au foie gras.
Ouais. Ça, je me souviens de ce jour-là. Parce que quand je l'ai fait goûter à papa, il m'a dit, ton grand-père va se retourner dans sa tombe. Donc, voilà, c'était... Mais c'était bon. C'était
oui,
bon.
Ça a eu du succès.
Ouais, ça a eu du succès, ouais.
Au fond, rien n'est jamais figé. Ni même dans la gastronomie.
La gastronomie, c'est une remise en question en permanence, ça c'est clair, quoi. C'était Fernand Poin qui disait, tous les matins, je repars avec mes frigos vides. Et je trouve que c'était une très jolie métaphore, parce que voilà, tous les matins, il faut se remettre en question. C'est vraiment une constante évolution, la gastronomie.
Est-ce qu'il y a des nouveaux produits aujourd'hui que vous commencez à travailler, qui n'existaient pas quand vous avez débuté, par exemple?
Moi, je ne sais pas si on avait parlé, par exemple, alors je vous parle, c'est pas un nouveau produit, hein, mais si on avait parlé de la coriandre à mon grand-père, je pense qu'il aurait halluciné.
Ah oui?
C'était
une mauvaise herbe.
Dans les années 60, on ne connaissait pas tout ce qui vient aujourd'hui d'Asie, par exemple. C'est très commun pour nous aujourd'hui, mais autrefois, voilà.
C'est tout aussi bizarre que les trottinettes en location et les vélos qu'on voit, les Vélib, tout autour de nous.
Pour eux, oui, exactement. On s'ouvre énormément, quoi.
Eh bien, nous sommes arrivés à destination devant la nouvelle cave. On s'y retrouve juste après une pause.
Frédéric Tadilly, en balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
Nous sommes à la Nouvelle Cave, 55 rue de Turbigot. Alors Hélène Darroze, on est où? Parce que vous ne connaissiez pas non plus, en fait.
Alors, non, je ne connaissais pas physiquement, j'étais encore jamais venue, mais ça fait longtemps que Charlotte, la directrice de Joya, me parle de Mathieu et de Marie-Audi, et qu'elle me dit qu'il faut aller les voir, voilà. Et du coup, je me suis dit, allons les voir aujourd'hui, ça tombe bien, puisque c'est tout à côté.
Vous êtes des fournisseurs, alors, donc...
Des producteurs et des fournisseurs.
Et c'est quoi ici? Il y a les vignerons parisiens aussi qui est en dessous, c'est-à-dire qu'on fait du vin ici même?
Oui, alors historiquement, vous êtes dans le premier chai urbain parisien. Et à l'ouverture de la nouvelle cave, nous avons gardé le sous-sol pour élever nos vins.
D'accord. Ce sont des vins parisiens qui sont vinifiés ici même?
C'est des vins qu'on vinifie, qu'on élève ici, donc au Turbigot. Et on a dû grossir un petit peu, donc on a dû prendre un petit peu plus de place. Et on a déplacé une partie de la production à Saint-Denis aujourd'hui. Mais au Turbigot, on a gardé notre élevage, la production de 2 cuvées, une Syrah et un Grenache blanc, qui restent élevés dans les demi-muis qui sont en dessous de nous.
Il y a donc du vin parisien?
Il y en a, depuis 5 ans.
Ouais, mais alors le raisin ne vient pas de Paris, si j'ai bien compris. Hein,
exactement, le raisin ne vient pas de Paris. L'idée, c'était de produire du vin à Paris, mais qu'on ait quand même une identité dans la bouteille. Et donc, on a des parcelles en Vallée du Rhône, qu'on exploite là-bas. J'ai 2 associés qui sont sur place et qui exploitent les parcelles à l'année. On remonte le raisin à Paris, vendange manuelle, remonté à Paris avec mon frigo, et toute la production se fait sur place.
Donc alors la presse, enfin tout...
Toute l'arrivée des raisins jusqu'à l'étiquetage de la bouteille, tout se fait chez nous. On ne sous-traite rien du tout. Et l'idée était de relancer un peu l'histoire viticole parisienne qui a toujours existé. On a toujours fait du vin à Paris, sauf sur les 50-60 dernières années. Et du coup, l'idée, c'est de relancer ce mouvement-là en allant un peu plus loin qu'à l'époque, parce que c'était surtout du négoce où il y avait de la mise en bouteille et puis les négociants de Bercy vendaient leur réseau. On a souhaité pousser le concept plus loin en vinifiant vraiment sur place et en vendant au restaurant, au caviste parisien. Quoi.
Mais Hélène, vous, à Gioia, ce ne sont que des vins faits par des femmes.
Oui, alors nous à Gioia, voilà, moi, on a voulu dès le départ que tous les vins, champagne, même alcool, soient, sauf ceux de mon frère, mais soient
toujours des dérogations.
Oui, voilà, pour la famille, voilà, mais que ce soit ou des femmes propriétaires de la propriété vinicole, ou alors que ce soit des œnologues femmes, que ce soit elles qui vinifient, quoi, en fait, que ce soit,
que ce soit des vins vinifiés par une femme.
Souvent, on dit que c'est des vins avec plus d'élégance. Après, je suis un peu féministe. Je pense que des hommes et des femmes peuvent faire pareil.
Vous en pensez quoi, Mathieu?
Oui, il y a sûrement une touche un peu. On tombe dans le mystique, là.
C'est comme la cuisine. C'est comme la cuisine. Moi, je dis, on n'est pas fichu pareil. On n'est pas. Moi, je dis que, voilà, on cuisine avec une sensibilité différente. Faire un vin, faire un plat, c'est mettre des émotions sur quelque chose.
Vous dites toujours, on cuisine plus à l'instinct quand on est une femme et c'est plus technique quand on est un homme.
Oui, exactement. Je pense que les hommes, quand ils font quelque chose, ils veulent toujours démontrer, être dans la démonstration. Et c'est sans jugement aucun que je dis ça. Et j'adore la cuisine d'hommes et j'adore les vins d'hommes. Attention, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que quand on est homme, on veut démontrer, on veut montrer qu'on est peut-être le plus fort. voilà. Nous, on veut partager, on veut donner du bonheur, partager une émotion, quoi. Donc c'est pas tout à fait pareil.
Il paraît qu'on boit de moins en moins de vin.
Ah bon ?
Vous avez remarqué ça ? Oui, même les Français boivent de moins en moins de vin, il paraît.
Nous, on en vend de plus en plus.
Ah oui ? Mais peut-être qu'on en boit du meilleur et qu'on en boit moins en quantité.
Peut-être. Alors oui, il y a une premiumisation du vin, mais c'est vrai, pas que pour le vin. Je pense que c'est vrai aussi pour la nourriture. On va peut-être moins souvent au restaurant, mais dans les meilleurs restaurants. Peut-être qu'on boit, on voit sur les phénomènes de bière aussi, où il y a la bière a monté en qualité de manière assez incroyable. Dernièrement, on boit peut-être moins de bière industrielle et plus de bière artisanale, disons. Donc c'est vrai dans le vin aussi, effectivement, mais j'ai l'impression que c'est vrai un petit peu partout.
Ouais, je pense qu'on mange mieux et on boit mieux, ça c'est clair.
Vous regrettez le temps où l'on servait du vin à la cantine, à l'école primaire, par exemple, jusque dans les années 50, hein, on buvait du vin ou de la bière ou du cidre.
C'était recommandé. Il paraît.
Ouais. C'est Carmades France qui a mis le holà dans les années 50.
Les enfants buvaient du vin ?
Oui, à la cantine, bien sûr. Ils n'étaient pas obligés, mais enfin, ça se faisait.
oui, bien sûr. Non, alors je ne regrette pas ce temps-là du tout. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'on est sur un secteur en France qui est quand même assez porteur. C'est un peu l'image de la France, la nourriture de manière générale et le vin en particulier. C'est un gros poste à l'export aussi. Et ça dépend qui on a à la tête du gouvernement, en fait. Il y en a qui sont plus ou moins favorables à ça. Et quand ça ne l'est pas, c'est vrai que c'est compliqué, nous, derrière, de faire le travail, rattraper un petit peu les
discours. Emmanuel Macron, il est plutôt pour le vin. Hein.
Oui. Après, voilà, dans le gouvernement, il y a d'autres personnes qui le sont moins.
Ouais, comme quoi. Vous nous recommandez quel vin parisien, alors,
nous,
Hélène Darroze ?
Nous, des vignerons parisiens, on a la cuvée Lutèce, je crois, oui. Hein, c'est ça.
Le blanc d'assemblage Vionnier, Roussanne et Marsanne.
Très féminin, très léger, très fleuri.
Et là, voilà. On voit à travers une vitre, on voit encore les barriques. Là, ça fonctionne toujours ou c'est juste pour la déco ?
Ah oui, c'est plein.
C'est plein, le vin est là.
C'est
le vin
donc le millésime 2019 qu'on a en fût de chêne et qui doit encore un peu patienter avant la mise en bouteille.
C'est deux cuvées qui sont donc toujours produites sur place et qui sont élevées pendant un an dans les demi-muits de 600 litres, qu'on voit donc à travers la vitre et qui seront mis en bouteille à la fin de l'année, mois de décembre ou janvier prochain.
Et qu'on retrouvera donc
à Gioia.
Voilà. Merci de... Merci de votre accueil. On va continuer notre balade avec Hélène. À bientôt. On vous suit, Hélène.
Allez, on continue alors.
Notre balade continue avec Hélène Darroze. On passe devant le musée des arts et métiers. Nous sommes toujours dans le centre de Paris. Cette année, Hélène, il y a une trentaine de femmes en France qui sont étoilées dans le Michelin. C'est à la fois très peu par rapport à l'ensemble des tables étoilées et puis beaucoup par rapport à ce que ça a pu être.
Hein. Voilà, c'est toujours plus. Donc c'est ça qui est bien. C'est toujours plus. Donc c'est super, quoi. Hein, c'est super. Maintenant, je pense que là, j'ai peu d'espoir à ce qu'on trouve un jour l'égalité parce que c'est vrai que c'est un métier... qui demande, alors j'appellerai pas ça sacrifice, mais certains aménagements de son temps pour une femme, une maman, une épouse.
C'est toujours la raison qu'on a invoquée pour dire qu'il y avait si peu de femmes dans les cuisines des grands restaurants. On disait que c'était à cause des horaires, des marmites trop lourdes aussi.
Ouais, c'est vrai que c'est un métier très physique, hein, parce que c'est de longues heures, parce que c'est debout toute la journée, parce que voilà, c'est un métier qui est particulièrement physique et pénible et fatigant. Ça, c'est
en même temps dans les années 30, quand on a commencé à donner des étoiles, il y avait des femmes qui avaient 3 étoiles au Michelin,
ouais,
la mère Brasier, Bourgeois.
Ouais, bien sûr, parce qu'à cette époque-là, c'était encore. Les femmes qui tenaient.
Je crois que c'est Paul Bocuse qui a fait ses classes chez
avec Madame Brasier, exactement, ouais. exactement. Donc oui, mais c'est vrai que les hommes ont pris le pouvoir à un moment donné,
Il vous a fallu vous faire admettre.
Alors moi, je suis la très mauvaise cliente pour avoir ce discours-là, parce que ça s'est passé pour moi hyper naturellement, hyper facilement. J'ai été respectée tout de suite, dans mes cuisines d'abord, par mes équipes, ensuite par mes confrères. Donc,
Les cuisines des autres aussi.
Et dans les cuisines des autres aussi. Mais voilà, moi, c'est ce que je dis toujours. On me dit, quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui commence dans la cuisine ? Moi, ce que je dis, c'est, voilà, je suis toujours restée femme. J'ai jamais cherché à être un homme. J'ai jamais cherché... J'ai toujours,
Mais ça a tellement changé, ce métier. Autrefois, les cuisines étaient fermées. On avait l'impression que c'était le bagne. Le chef n'était pas le propriétaire du restaurant. Il faisait d'ailleurs de la gratte sur les approvisionnements. Dans le grand restaurant, le film avec Louis de Funès, il n'est pas le chef. Il est le propriétaire. C'est lui qui part à dans salle.
Ouais.
Et c'est la guerre avec la cuisine, d'ailleurs. Hein. Je sais pas si
mais c'est vrai que le métier... Alors, c'est vrai que oui, c'est historique, ça. Hein. Entre la salle et la cuisine, il y a toujours eu des conflits, alors que maintenant, au contraire, quoi, hein, c'est vraiment une aspiration de tout le monde de travailler main dans la main.
C'est aussi parce que le chef ou la chef règne à la fois sur les cuisines et sur la salle.
Oui,
c'était pas le cas.
Et c'est vrai que il y a eu un temps où, moi je l'ai vu, hein, c'est vrai que les chefs ne considéraient pas le métier de maître d'hôtel, de chef de rang, de serveur. C'était pas
noble pour eux.
Ouais, exactement. Alors qu'il est crucial, ce métier-là, il est hyper important. C'est quand même eux qui nous représentent dans la salle. C'est eux qui donnent du bonheur avec nous. Donc c'est un travail main dans la main, c'est un travail d'équipe.
Mais justement, qu'est-ce que ça a changé, le fait qu'aujourd'hui ce soit le chef ou la chef qui commande et qui commande à l'ensemble de l'établissement et plus comme autrefois où c'était séparé? Ça a changé beaucoup de choses?
Oui et non, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de grands chefs qui travaillent en binôme avec quelqu'un en salle, et c'est vraiment un échange, un partage. Il y a beaucoup de grands chefs aussi qui travaillent avec leurs épouses, et moi je le dis souvent, et ils le disent eux-mêmes, Michel Guérard sans Christine Guérard, voilà, est-ce qu'il serait Michel Guérard? Et lui le dit, il rend toujours hommage à sa femme, c'est pareil pour beaucoup, Michel Rostand sans Marie-Claude, c'est quand même vraiment un travail main dans la main.
Aujourd'hui, le fait que les cuisines soient ouvertes, les clients vous voient travailler, c'est le cas à Gioia, c'est le cas aussi au Marsan, hein, maintenant. On voit ça a dû changer pas mal de choses.
On note aussi, oui, ça change, mais au moins, c'est un vrai théâtre. Hein, de toute façon, les gens adorent regarder ce qui se passe dans une cuisine, être dans les coulisses. Les gens adorent ça
mais en même temps, on ne peut plus crier.
Moi, j'ai jamais crié, donc ça ne me gêne pas beaucoup. Oui, mais bon, c'est leur problème.
C'est toute cette organisation militaire, le fait qu'on appelle ça des brigades de cuisine, un chef.
Alors moi, je ne m'appelle pas chef, hein, je m'appelle Hélène. Ça, c'est
bien. Ah oui, vous appelez pas chef?
Non, moi, je m'appelle Hélène. Ouais. Un commis, je ne l'appelle pas commis, je l'appelle par son prénom, donc je ne vois pas pourquoi lui ne m'appellerait pas par mon prénom. Ça, c'est quelque chose que j'ai instauré dès que j'ai commencé. Je vous avoue que dès qu'on rentre dans ma brigade, il y a toujours beaucoup de mal à, oui, à aller vers cette règle lente, en tous les cas, qui est une règle bien souple, mais voilà. C'est une question
de... C'est un peu bizarre, d'ailleurs, le fait qu'aujourd'hui, dans plus en plus de métiers, on se tutoie, on s'appelle par son prénom, mais en même temps, ça n'empêche pas de se faire virer, donc...
Ouais. Alors moi, le tutoiement, par contre, alors même les apprentis, même le plongeur, je les vouvoie. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment... c'est peut-être une question d'éducation, de respect par cette éducation, je ne sais pas, mais oui, appeler par le prénom, ça me semble vraiment. Enfin, moi je suis quelqu'un qui suis extrêmement dans la communication avec mes équipes, du moins j'espère, je fais tout pour, et bah, ça commence par s'appeler Hélène, Pierre ou Paul ou Jacques, c'est clair. Ouais.
Et c'est quand même des rapports hiérarchiques.
Ah ben, je suis là pour inspirer, ça c'est clair et net. Et il faut, dans tous les métiers, c'est pareil. Il y a un boss, si
faut
on peut dire.
Faut pas s'y tromper,
hein,
quoi.
Mais ça n'empêche que je pense qu'il y a beaucoup de considération de l'autre dans mes cuisines. Vous voyez, j'arrive même pas à dire le mot brigade.
C'était Escoffier qui avait organisé.
Escoffier, ouais,
c'est Escoffier, le début du siècle.
Mais c'est vrai que c'est une organisation très militaire, 19e. Mais que moi je réfute.
C'est lui qui avait organisé ça. On est arrivé devant la School Gallery, une galerie d'art contemporain où vous vouliez vous rendre. On va écouter Jacques Dutronc nous chantait sur une nappe de restaurant. Et puis pendant ce temps-là, on va rentrer, on se retrouve à l'intérieur.
Exactement. Europe 1, 11h30, en balade avec Hélène Darroze. Frédéric Taddeï.
Sur une nappe de restaurant, j'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne mangent que du plancton. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi. Évidemment, dans ma voiture de champion, j'ai redonné cette chanson en pensant à tous les piétons qui n'ont pas quelques millions. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi, évidemment. Et en vacances sur la côte, j'ai écrit cette chanson pour tous ceux qui côte à côte nagent dans une cuve en béton. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi, évidemment. Sur une nappe de restaurant, j'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne font qu'une collation. Évidemment, ça va de soi, ça va de soi, évidemment. Non, je ne suis pas un égoïste, je suis un homme comme vous tous, un petit capitaliste qui des autres à la frousse. Ça va de soi, évidemment, évidemment. Ça va de soi, ça va de soi, évidemment. Ça va de soi.
C'était Jacques Dutronc qui chantait sur une nappe de restaurant sur son premier album en 1966. On se retrouve avec Hélène Darroze à la School Gallery dans un instant.
Europe 1, 11h30, en balade avec Hélène Darroze. Frédéric Taddeï.
Nous voilà à l'intérieur de la School Gallery, 322 rue Saint-Martin, galerie d'art contemporain ouverte et tenue par Olivier Castin. Hélène Darroze, vous avez l'air d'être une habituée de cet endroit.
Oui, je viens souvent parce que d'abord on est amis dans la vie avec Olivier depuis longtemps. Donc je viens avec mes filles, on s'arrête, on vient ici, on vient déjeuner dans le quartier des fois. Puis on n'est pas loin de Joya toujours. Hein, ouais. Voilà, mais là je découvre la nouvelle expo parce que je n'étais pas venue. Voilà.
C'est Our Common Future, c'est ça?
Oui, mais l'idée c'est...
Notre avenir à tous.
Oui, exactement. Et là c'est deux frères, en l'occurrence. Moi, je défends beaucoup de duos d'artistes. Et là, c'est deux frères qui travaillent à quatre mains, qui s'appellent La Fratrie, Luc et Karim Berchich, et qui, effectivement, ont un regard assez circonstancié sur ce qui est en train de se passer dans notre monde, dans notre environnement, avec toujours un décalage. L'idée, c'est d'y mettre une bonne touche d'humour pour effectivement faire réagir les gens.
Il y a des petits immeubles sur des ouais. lopins de terre qui ont l'air de s'élever dans le ciel. Ce sont des maquettes.
Ouais, ce sont des maquettes, ce sont des fragments. C'est presque comme des fragments arrachés à la terre. Avec toujours, à chaque fois, il y a un slogan. Donc là, c'est
incurable romantique.
Exactement. Et puis plus loin, là, on en a un qui est sponsored par nobody. Donc voilà, c'est
sponsorisé par personne.
Voilà, et qui est tout simplement un conteneur chinois qui sert de radeau. Il y a un poteau télégraphique là qui sert de mât, et puis il y a un palmier qui sert de à laquelle sont accrochées les voiles. Donc voilà, une espèce
de cabane. Vous êtes collectionneuse, Hélène ?
Alors, j'ai acheté une photo de Gilles Caron il y a quelques années. J'ai de jolies photos à la maison.
Il y a des photos de Gilles Caron d'ailleurs exposées dans les galeries.
Mais oui, parce que c'est le 50e, la commémoration du 50e anniversaire de sa disparition.
Il a disparu au Cambodge en 70.
Hein, ouais, si avril 70, oui.
Donc dans le territoire des Khmers Rouges à l'époque, qui n'avait pas encore pris le pouvoir.
Et c'est notre plus grand photographe de guerre français. On est en train de lui redonner sa place.
En quelques années, il a couvert toutes les guerres. À l'époque, il y en avait de nombreuses.
Il a couvert les cinq plus grands conflits de la fin des années 60, c'est-à-dire la guerre des Six Jours, dont il a fait les photos les plus exceptionnelles, qui fait qu'il est devenu le plus grand photographe de guerre français. Et puis, il a couvert le Vietnam, il a couvert les émeutes de
Biafra, je me souviens.
Le Biafra. Et mai 68.
Et même les événements au Mexique aussi.
Au Mexique, à Prague également. Ouais. Et Hong Kong.
Alors, il fait de très jolies photos de guerre, certes. Enfin, moi, la photo que j'ai, c'est une photo prise au Vietnam, hein, qui est magnifique. Mais il fait aussi il a fait de très beaux portraits d'artistes. Hein. Moi, je me souviens avoir vu
il y a une photo de Romy Schneider, de toutes les stars de la fin des années 60.
D'ailleurs.
Il y a Jane Birkin, il y a
Johnny,
il y a les Beatles,
Serge Gainsbourg.
Il y en a plein.
Frédéric Taddeï se balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
C'est tout le Vietnam, vous en avez acheté une, ça vous rappelle le Vietnam parce que c'est
oui,
là que vous avez adopté vos
petites filles. Exactement, voilà, c'est un vrai clin d'œil à l'histoire de mes petites filles et voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté.
Voilà, c'est un tout petit mur, mais il y en a 100 000 en tout, donc c'est un fond extraordinaire.
Ça, c'est
magnifique.
Ouais,
là, on a le Biafra, on a le Derry. On a les people de la fin des années 60.
C'est fou comme à l'époque, on est dans les années 60, les stars sont jeunes. Les stars ont 25 ans à l'époque. Les gens qui révolutionnent la musique ont entre 20 et 25 ans. Qui révolutionnent la photo de reportage, ils ont 25 ans aussi.
Je sais pas, je crois surtout qu'ils sont très chics. C'est la grosse différence, je trouve, par rapport à aujourd'hui. Quand on regarde, ils sont dans la rue, mais ils sont en costume.
Oui, vous parlez des gens sur les photos, oui. Mais moi je parlais des gens qui sont
oui,
sur...
Oui, et en plus ils sont jeunes, ouais, on
je
est d'accord.
Je parle de Paul McCartney, comme ouais. de Gilles Caron, comme... ils sont jeunes, quoi, parce qu'à l'époque, les jeunes sont les plus nombreux, tout simplement, peut-être. Hein.
Ouais.
Bon, et donc on leur laisse toute la place, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
On a des photos du général de Gaulle aussi, de Pompidou, enfin de...
Par
Caron. Oui, il y a des sublimes photos du général de Gaulle, elles sont incroyables. Elles ont été montrées l'année dernière à l'Hôtel de Ville, parce qu'on a fait la commémoration de mai 68 à l'Hôtel de Ville avec Gilles Caron. Et puis là, il va être montré à Reims, il va être montré à Cherbourg, il va être montré à Rennes. Enfin, il y a un programme d'expo très
Comment
important.
Comment vous êtes retrouvé, vous, à défendre l'héritage de Gilles Caron
Parce que, justement, et ça aussi, ça concerne Hélène, parce que la fille de Gilles Caron, Marjolaine, il a eu deux filles qui étaient toutes petites quand il a disparu. Il y en a une qui est artiste et qui est artiste aussi avec son mari. Donc, c'est un de mes deuxièmes duos. Et ils font de la céramique depuis quelques années. Ils délirent bien.
Ah oui, on voit leurs œuvres, là.
Voilà, c'est du spécialiste de... Alors, c'est eux, là. Ils ont eu un reportage il n'y a pas longtemps. Et voilà, c'est un couple qui crée à quatre mains dans une espèce de folie créatrice. Mais ils sont pas, elle n'est pas la fille de Gilles Caron pour rien, quoi. Ils sont spécialistes du fait divers aussi.
Mais, et puis surtout, ils ont créé pour moi deux pièces assez uniques au Connaught. Deux pièces centrales.
Donc l'Hôtel de Londres.
Voilà, dans mon restaurant au Connaught, ils ont fait une espèce de... de nature morte en sculpture géante à base de légumes et de fruits qui est assez extraordinaire et impressionnante, quoi. C'est un travail de dingue.
C'est
magnifique, c'est magnifique.
Mais ça, c'est eux, là, c'est un des derniers. Ils viennent d'acheter un nouveau four, donc ils m'ont fait les œufs plats, là. Tu vois, une petite faim.
Donc toujours la nourriture, hein, ça vous poursuit. Ouais, ouais.
Ils font des
et
choses
si
assez dingues.
Vous pouvez venir derrière, parce que derrière, c'est le showroom. C'est le stock vivant de la galerie, voilà. ah, où oui. Il y a des tonnes d'œuvres, bon, dont beaucoup de photos de Gilles, tout ça, c'est des photos de Gilles.
C'est tous les invendus, on dit qu'un galeriste est riche de ses invendus.
Ah non, c'est pas du tout les invendus, c'est tout ce qu'il y a à vendre. Mais moi, je suis comme Hélène, je crois, c'est un des traits qui nous rapproche, c'est la générosité. Donc, il faut que ce soit abondant. Et j'aime cette abondance. Les gens viennent, ils fouinent.
Abondant, mais pas gratuit.
Ah, mais c'est pas gratuit, oui. Il faut que tout le monde... D'abord, parce qu'il y a 50% du prix de vente qui va à la fondation pour soutenir l'œuvre. Ah oui, voilà, ça, c'est Gilles Caron, c'est une des photos de.
La plus célèbre, c'est ce garçon dans les fumées de mai 68 qui lance un pavé.
Le lanceur de
pavé. Au loin, et on le voit de dos. C'est certainement sa photo la plus célèbre. On va continuer notre balade. Hélène Darroze, merci. Olivier Castin.
Merci à vous.
À bientôt.
Heureux de vous avoir accueilli.
On se retrouve juste après les infos.
Frédéric Taddeï, en balade avec Hélène Darroze sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Hélène Darroze. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Hélène Darroze, chef multi-étoilé. Son restaurant Le Connaught à Londres, Le Marsan, rue d'Assas à Paris. Nous étions au début de notre balade... chez Gioia, à Gioia plus exactement, son troisième restaurant qui se trouve rue des Jeuneurs. Hélène Darroze qui publie justement un livre de recettes, les recettes originales de Gioia au Cherche Midi. Vous êtes ce qu'on appelle une star aujourd'hui, mais j'ai l'impression que le prix à payer, c'est qu'on fait tout toute seule. J'ai l'impression
une
que
star,
vous...
ça ne me parle pas du tout. Hein.
Une star de la cuisine. J'ai l'impression que vous faites tout toute seule.
Ouais, je fais un peu trop tout toute seule. Il faudra... c'est vrai que j'ai des super équipes qui m'encadrent. Ça, c'est clair. Mais
vous êtes à la fois dans la cuisine, chef d'entreprise, avec vos filles, à cheval entre Londres et Paris. Et oui, vous faites tout toute seule.
Non, pas tout toute seule, parce que sincèrement, j'ai des très bonnes équipes dans tous mes restaurants. Et je peux me déléguer et me reposer sur elles. Voilà, hein, parce que quand je suis à Londres, je ne suis pas à Paris. Quand je suis à Paris, quand je suis à Marsan, je ne suis pas à Gioia. Même si à Gioia, je n'ai pas vocation à y être. C'est surtout sur les restaurants gastronomiques où je me trouve. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup trouver parfois une personne qui me déchargerait de...
L'administratif.
Ouais, c'est... l'administratif, tout ce qui est aussi... toutes les finances, tout ce qu'il faut négocier, etc. Qui partagerait avec moi une vision du développement. Voilà, ça serait pas mal.
Mais alors, j'employais le mot star. Alors, c'est vrai qu'il est un peu galvaudé, le mot star. Mais c'est vrai que les cuisiniers, aujourd'hui, sont devenus des vedettes. On vous engage pour un dîner à l'autre bout du monde. Je crois que vous en aviez eu un à Séoul. Vous avez fait l'aller-retour à Séoul pour préparer un dîner.
Souvent de faire des allers-retours, hein, parce que mes équipes partent avant moi. Et commence à préparer le terrain et à dégrossir les choses. Et moi, j'arrive presque souvent à la dernière minute parce que c'est vrai que chaque journée est comptée. Donc, ça m'arrive de rester là, justement, un de mes collègues. On travaille sur un projet à Macao avec un collaborateur et je vais y rester. Je vais y rester deux nuits. Et il me disait, mais deux nuits, faire tous ces kilomètres pour deux nuits, ben ouais, mais il n'y a pas plus de temps.
Mais c'est drôle, c'est ceux qui vous engagent surtout, en fait. Qu'est-ce qu'ils engagent à ce moment-là? Ils engagent une vedette?
Oh ben non, je ne suis pas vedette à Macao, hein, ça c'est clair. Je pense qu'ils engagent un savoir-faire, je pense qu'ils engagent aussi une certaine vision de la cuisine française. Je pense que quand même derrière ça... c'est une volonté de
que ce soit bon.
Que ce soit bon, voilà, et que ça représente la cuisine française.
Pourquoi Disney s'est inspiré de vous pour le personnage de Colette?
Ça, je sais pas, hein, ça a été
dans Ratatouille. Parce qu'ils sont venus vous voir, hein,
Ouais, alors moi, en fait, c'est Pixar qui est venu me voir, puisque c'est Pixar, là. Le producteur, donc, et moi à l'époque Pixar, je savais pas ce que c'était, je crois qu'ils avaient fait que Cars à l'époque, et c'est à l'époque une de mes secrétaires qui est venue me voir et qui me dit, écoutez Hélène, on a une demande complètement folle des studios Pixar. Je dis, mais c'est quoi ce truc et tout? Elle avait un petit garçon et donc elle connaissait bien Cars, et elle m'a dit, non mais ça, il faut la prendre très au sérieux, c'est super sympa, etc. Et en effet, ils cherchaient quelqu'un pour venir voir comment une femme pouvait évoluer dans une cuisine avec sa brigade, comme on disait tout à l'heure, ses chefs. et comment elle pouvait travailler. Et donc, ils sont restés plusieurs jours à me suivre, à me regarder, à m'interroger.
Vous êtes reconnue quand vous avez vu Colette?
Pas vraiment, parce que déjà, physiquement, elle est très différente de moi. Okay. Elle est brune, assez dure, assez sévère, assez tranchante, ce que je ne pense pas être vraiment dans mes cuisines. Mais après, j'ai reconnu plein de détails de mes cuisines dedans. Ça, j'ai reconnu plein de petits trucs. Hein. Voilà, mais bon, après, Colette, elle s'ouvre énormément.
Elle devient sympa.
Voilà, elle devient plus.
Et puis, il y a Mattel aussi qui a fait votre poupée Barbie. Oui, poupée Barbie aussi, à votre effigie. Malheureusement, il n'y en a qu'une, je crois.
Il n'y en a qu'une, c'est moi qui l'ai.
Qui joue avec? Non, sont vos filles? Mon fils?
Non, ça fait... là, elle ne joue plus aux poupées Barbie. Elles n'ont jamais trop joué, mais elles n'y jouent pas. Mais. Oui, c'était il voulait un peu démystifier cette idée de la blonde
Barbie, de la Barbie
qui travaillait pas. Donc là, ils lui ont donné un métier de cuisinière, ils lui ont donné la tête ils ont choisi 10 femmes dans le monde entier.
Oui, mais il y avait qu'une cuisinière.
Il y avait qu'une cuisinière et qu'une française, et ouais. C'était moi, voilà.
Europe 1, en balade avec Hélène Darroze. Frédéric Tadéhi.
Il paraît que vous êtes mis au golf, Hélène Darroze.
Alors, j'ai joué au golf il y a très très longtemps.
Ah bon, je croyais que c'était récent, c'était depuis que vous étiez
au
golf.
Au contraire. Non, pas du tout. Hein. Ouais. Non, pas du tout. J'ai joué au golf quand j'étais dans les Landes et dans le Pays Basque, parce qu'on joue beaucoup au golf. Là, il y a de super beaux terrains de golf et je jouais quand j'étais jeune. Mais là, j'ai plus le temps. Hein. Depuis que je suis arrivée à Paris, je n'ai plus joué beaucoup, hein, mais je garde ça pour mes vieux jours quand je serai à la retraite.
C'est un beau sport, le golf.
Ah, j'adore ça. J'adore marcher.
Ça prend la tête. Les gens qui, autour de moi qui jouent au golf, ils ne parlent que de ça.
C'est vrai, on est obsédé par la petite balle et on en rêve la nuit. Mais c'est vrai, c'est très prenant. Après, on veut tout le temps jouer. Mais je sais pas.
Vous rêviez plus de la petite balle que de vos plats en cuisine.
Ah non.
Vous rêvez de. Vous faites la cuisine?
Je sais pas. Elle, c'est pas dans mes rêves. Mais j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. J'ai des livres à la maison et quand j'ai un petit moment, je me plonge dedans.
Comment vous inventez les plats?
Inventer, c'est un grand mot ça. écoutez, moi je travaille sur les plats. Je travaille en général à la maison. Je dis dans un vieux pyjama ou un vieux jogging et en chaussettes. Et je suis toute seule avec de la musique dans une pièce et je prends un papier, un crayon, une feuille blanche, quoi. Et puis je pars d'un produit et puis après.
Ah donc ça se passe avec du papier, pas avec le produit, ça se passe dans une chambre, pas la cuisine.
Le premier travail, il se passe comme ça.
Ah ouais.
Le premier travail, il se passe comme ça. Après,
c'est abstrait, donc complètement
après,
abstrait.
Dans la cuisine, je le partage avec mes collaborateurs et eux, ils commencent à travailler autour. C'est à ce moment-là qu'ils interviennent et qu'ils participent. Et voilà, ouais. C'est comme ça.
Eh bien, on se rend au Café Alain Ducasse, rue Saint-Sabin. Nous sommes en voiture. On se retrouve là-bas, juste après une pause.
Frédéric Tadéhi, en balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
Nous voilà 12 rue Saint-Sabin, le café Alain Ducasse, ou plus exactement la manufacture de café, puisque on torréfie sur place, hein, Hélène Darroze.
Oui, c'est exactement. Monsieur Ducasse et ses équipes vont choisir des cafés un peu partout dans le monde et les font acheminer ici quand ils sont encore verts. Et puis après, toute la torréfaction se fait ici. C'est assez incroyable.
Je vous suis. C'est lui qui vous fournit le café?
Alors, pas encore. On est en train de travailler sur un projet ensemble, mais pas encore.
Bonjour.
Bonjour. Comment ça va?
Bonjour, bienvenue. Bonjour.
Olivier, c'est ça?
Olivier, exactement, oui.
C'est vous qui vous occupez de ce lieu. T'es en train de devenir mythique.
Ouais, c'est un lieu magique. Alain Ducasse a voulu qu'on, sur le modèle de ce qu'on avait fait au chocolat précédemment, qu'on choisisse un produit et qu'on aille le plus loin possible dans son travail.
Il y a une manufacture de chocolat aussi, Alain Ducasse.
Juste à côté, à 50 mètres à vol d'oiseau, le principe est le même. On prend un produit et on essaye de travailler ce produit avec tous les égards et tous les talents que compte notre groupe. Alors on a mis tout le monde autour de la table et puis on a fait travailler des pâtissiers, des sommeliers autour du café. Voilà la contrainte ici, c'est un ingrédient.
C'est vrai que le café, au fond, c'est la dernière saveur qu'on emporte d'un restaurant, Hélène Darroze, quand on se lève, on garde le goût du café.
Alors ça peut être aussi le digestif. Et chez moi, l'Armagnac, Mais c'est vrai que le café, comme le dessert, oui, c'est un peu les dernières impressions et c'est hyper important. Et puis quand on aime le café, quand on est amateur de café, comme quand on est amateur de thé, ben, l'origine est super importante, la manière de torréfier, de sécher est super importante. Donc voilà.
Alors je vois qu'il y a il y a un comptoir, mais derrière il y a de belles machines.
Exactement, ici vous avez la particularité d'avoir deux entités différentes. Vous avez un café comme celui-ci, on en a quatre, mais de l'autre côté vous avez la production, l'endroit où on torréfie le café, où Veda, que vous apercevez là-bas, torréfie le café pour tous les restaurants d'Alain Ducasse et quelques privilégiés.
Mais là, on comme peut aussi acheter du café.
On peut acheter du café en grains.
Qui a été torréfié ici.
Torréfié ici. Alors, c'est le principe de départ. C'est que le produit doit rayonner d'un seul et même endroit. Alain Ducasse fait attention à la qualité des produits. Donc, tout part d'ici. En revanche, vous avez toutes les origines. Les cafés sont en grains. On a un petit peu d'équipement aussi. Qui dit café, dit machine. Ouais. Le café, c'est la particularité. C'est le seul produit pour lequel on vous laisse finir le travail. Quand on vous vend du chocolat, vous n'avez plus qu'à le manger. Ici, il faut préparer. Donc, on s'assure que vous... On vous propose une petite bouilloire, une petite cafetière.
Vous avez travaillé avec Alain Ducasse, Lena Rose.
Moi, j'ai travaillé
sortie de Subdeco. Ouais. C'était à l'hôtel de Paris à Monaco.
Trois ans avec Alain Ducasse. C'était trois années fantastiques, quoi. Hein. Ouais, trois années où j'ai appris la rigueur, où j'ai appris.
Vous étiez arrivée de Subdeco, pas comme cuisinière.
Pas du tout. Mais j'ai plus travaillé dans ses bureaux qu'avec lui en cuisine. Hein, ça, c'est clair. Hein. Je venais d'être diplômée de Subdeco. Je cherchais du travail. Je voulais travailler à la SBM à l'origine. Et mon papa lui a passé un coup de fil en lui disant, bah, tu connais pas quelqu'un à la SBM. Et il a dit, mais moi, je voudrais bien la rencontrer. Et j'ai travaillé à ses côtés dans ses bureaux.
Mais il paraît que c'est lui qui vous a encouragé à vous mettre à votre.
C'est lui qui m'a mis. Je dis le coup de pied aux fesses qu'il fallait. Un jour, il m'a dit, voilà, maintenant, vous y allez. Et j'ai dit, mais non, moi, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas appris. Il m'a dit, allez-y, et je pense que vous pouvez y arriver. Et voilà.
Il paraît qu'il vous a dit, il y a une place à prendre pour une femme.
Il y a une place à prendre pour une femme dans la cuisine, et je pense que vous pouvez la prendre. Voilà ce qu'il m'a dit.
Il avait raison, d'ailleurs, parce que quand vous avez votre première étoile assez vite, puis votre deuxième étoile, surtout, là, c'est la médiatisation devient énorme, parce que vous êtes une femme.
Parce que je suis une femme, oui, exactement.
Il y en avait très peu.
À cette époque-là, on a parlé plus de ma deuxième étoile que des troisième étoiles, que des trois étoiles qui avait eu, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de fans. Ouais.
Europe 1, en balade avec Hélène Darroze, Frédéric Tadéhi.
Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que le café, le meilleur, c'est l'éthiopien?
Parce que c'est l'originel, parce que c'est là qu'il y a deux histoires pour la découverte du café. On parle de Yémen et on parle de l'Éthiopie, mais on a maintenant les gens un petit peu répartis. Il y a des amoureux de l'Amérique du Sud, il y a des amoureux du café italien. Alors là, c'est plus l'origine, c'est la torréfaction. Il y a des gens qui aiment l'amertume. Ça dépend vraiment. On dit que le café c'est culturel et personnel. Les Italiens le boivent d'une manière, les pays nordiques d'une autre, mais chacun a sa petite manière aussi de boire le café. C'est très
personnel.
C'est
quoi votre café préféré, Hélène ?
Moi, il faut que je vous fasse une confession. Je vous amène à la manufacture du café parce qu'on travaille sur un projet super intéressant avec Olivier et Léda, mais moi je ne bois pas de café, je ne digère pas le café et je l'adore en dessert et du coup je bois très peu de café. Alors vous m'en aviez fait goûter quand même et j'avais apprécié.
On a fait une dégustation au nez qui était quand même incroyable. On a fait une dégustation de café sans boire de café. On a mis des moutures du café fraîchement moulu qu'on a comparé au nez.
Génial.
Et on a pu créer ensemble un café sans qu'elle en boive, sans l'avoir goûté. On l'a construit.
Alors que je le goûte quand même à un moment donné quand il va être bien finalisé parce que...
Vous voulez qu'on passe en production et qu'on aille...
Le temps d'y aller, on va écouter Ella Fitzgerald de chanter Black Coffee. Voilà, ça s'impose. Café noir.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. And in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down road. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadow. 1 o'clock to four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, Not much hard to fight that coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around. And not much hard to fight like coffee. Since the blues has got me down, it's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come It's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around. Black Coffee.
C'était Black Coffee, chanté par Ella Fitzgerald en 1971. On se retrouve dans un instant avec Hélène Darroze dans la manufacture de café d'Alain Ducasse, rue Saint-Sabin.
Europe 1, 11h30, en balade avec Hélène Darroze, Frédéric Tadéhi.
Nous sommes avec Hélène Darroze dans la manufacture de café, côté production, d'où le bruit qu'on entend. Nous sommes avec le torréfacteur en chef, c'est ça?
Bonjour.
Bonjour. Il paraît que vous avez été deux fois champion de France de torréfaction.
J'ai eu la chance de faire deux fois les championnats de France et de les gagner deux fois. Donc, de représenter la France aussi, représenter la France de la torréfaction de café aux mondiaux.
C'est dingue, on ne sait pas que ça existe. Hein. Comme vous avez été élue meilleure chef femme du monde. On ne savait pas que ça existait non plus.
Et bien voilà, c'est fait.
Et alors, qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi ce bruit?
Alors, c'est la machine à torréfier qui tourne. Bientôt, une torréfaction va être lancée. Et voilà, on va suivre l'évolution de la cuisson des grains de café, le café vert hein, au départ, la cuisson afin de développer les notes, les molécules aromatiques qu'on connaît dans le café, tout simplement.
C'est quoi? Ce sont des assemblages de grands crus
Oui, on essaye d'assembler justement les choses, donc bien sélectionner notre matière première, nos grains de café, et trouver la justesse nécessaire qui va correspondre à l'identité que le chef aura posée pour nous.
Ça sent bon hein, quand même. Ouais, ouais. Vous n'en buvez pas, mais vous êtes sensible.
Ça sent remarquablement bon. C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que c'est au nez, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Voilà, quoi. Et moi, je suis toujours fascinée là, d'être devant l'ordinateur et l'écran et les courbes et attendre le crack, c'est ça, non?
Oui, il y a beaucoup de science, hein, beaucoup de thermodynamique, beaucoup de chimie, beaucoup de physique. Et après, une évolution tout à fait naturelle du grain avec une pression interne, le grain qui explose comme un pop-corn, etc. Donc, des seuils dans la cuisson qui nous permet de comprendre un petit peu ce qui se passe.
Frédéric Tadéhi se balade avec Hélène Darroze sur Europe 1.
Là, c'est là où on met le café sous vide pour pouvoir ensuite Le vendre, l'exporter?
Exporter dans tous les restaurants du groupe d'Alain Ducasse. La seule exception pour l'instant est le Japon, que nous fournirons à partir du mois prochain. Et avec nos clients professionnels, c'est jusqu'à 25 pays dans lesquels on doit livrer du café maintenant, à partir de cette petite rue typiquement parisienne. Mais voilà, ça rayonne petit à petit, ça s'agrandit. Ça, ce sont des paquets qui sont réservés, des paquets d'un kilo qui sont réservés au restaurant. Mais les gens peuvent acheter des paquets de 100 grammes, 250 grammes pour chez eux.
Vous aussi, vous êtes exporté à Londres, Hélène Darroze, à l'hôtel Connaught. L'hôtel Connaught, les Français le connaissent sans le connaître. C'est là qu'habitait le général de Gaulle hein, quand
ouais,
il
c'est
était
ça, exactement. Quand il est parti à Londres, il est allé.
Ce qui est drôle, c'est quand on lit dans les livres, on dit qu'il habitait à Londres, un hôtel discret. Parler, le Connaught, c'est pas spécialement discret.
Ah si, ça reste quand même l'hôtel justement un peu discret, des gens palace, en tous les cas qui veulent pas être vus, c'est un palace certes mais c'est un peu une, c'est une institution, c'est très britannique hein, même s'il y a cette touche française de par le général de Gaulle, de par le chef qui a été là pendant longtemps qui s'appelait Monsieur Bourdin, Michel Bourdin.
C'est une tradition, hein, le chef français.
Ouais, alors il y a eu 5 ans un peu avec une chef italienne qui s'appelait Angela Arnett, mais oui, c'est très français. C'est dans cette petite partie de Londres qu'on appelle un peu la petite France.
C'est Mayfair.
Dans Mayfair, Mount Street, où il y a tous les grands couturiers français. Et voilà.
C'est drôle, cette ville qui avait la réputation. Il n'y a encore pas très longtemps, on disait que c'était la ville où on mangeait le plus mal. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est la ville où on mange le mieux.
En tous les cas, ouais, je pense que c'est une ville où il y a un peu toutes les cuisines du monde entier qui sont représentées, très cosmopolite et avec beaucoup d'influence. Et oui, moi je dis que... si on compare le meilleur japonais de Paris et celui de Londres, il n'y a pas photo, quoi. Donc, voilà.
Il y a un repas qui vous a presque rendu célèbre à l'époque, c'est quand vous aviez fait la cuisine pour Jacques Chirac et Helmut Kohl. C'était en quoi, 96 à peu près?
C'était en 96, exactement.
Il paraît que ça avait...
Alors, je ne sais pas si c'est la première fois qu'ils se voyaient.
Ouais, en tout cas, c'était un...
Ah ouais, d'accord. À l'époque, c'était Madame Kohl qui avait écrit un livre de cuisine. Et à Périgueux, donc pas très loin de chez moi, il y avait le salon du livre de cuisine qui existe toujours, le salon gourmand, je crois. Hein, je ne sais pas comment l'appeler. Et donc là, on m'avait demandé de cuisiner un des plats du repas.
Ouais. Et il paraît que ça avait failli mal se passer. Bernadette Chirac n'était pas du tout contente.
Moi, j'ai cru qu'elle n'était pas contente. Mais c'est vrai qu'elle s'est levée avec un petit air sévère et qu'elle est venue dire, mais quelle est, puisqu'on était 3 cuisiniers, quelle est la personne, ou 4, je ne sais plus, quelle est la personne, qui est-ce qui a cuisiné le pigeon? Et c'était moi. Alors moi, j'ai levé le doigt là, comme ça, comme une gentille élève. J'avais pas 30 ans à l'époque. Hein. Et puis, c'était surtout la première fois que je faisais un truc comme ça. Et donc, moi, j'ai dit, c'est moi. Et là, elle m'a regardé avec un regard sévère. Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça. Elle a dit, mais vous savez que mon mari et moi, nous ne mangeons jamais d'oiseaux. Donc là, moi, j'étais tétanisée, je ne savais plus quoi dire. Et elle a rajouté, est-ce que mon chef peut vous appeler lundi pour avoir la recette? Et donc, voilà, c'est petite histoire. Voilà.
Et je me souviens que ça avait donné un sketch des guignols.
Au guignol le lendemain, c'était un samedi soir, le lundi soir, mon pigeon était au guignol de l'info dans la bouche de la Chirac. Donc c'était,
voilà, ouais. Fayette célèbre.
Exactement. Exactement.
Et bien merci de nous avoir emmenés en balade avec vous, Hélène Darroze. Merci Olivier de nous avoir accueillis. À la manufacture de café Alain Ducasse. On remercie également à la Nouvelle Cave, les vignerons parisiens, Marie et Mathieu. On va remercier également la School Gallery, Olivier Castin. Je rappelle que votre livre de recettes, Joya, 60 recettes originales d'Hélène Darroze pour son restaurant Joya, c'est au Cherche Midi. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.